One, two, three.
Bonsoir, je suis Mathilde Sarel.
Et je suis Martin Kénéen.
Et je suis Anne Baldassari.
Je suis Leïla Slimani.
Ce soir, elle nous entraîne au cœur des vies minuscules et des grandes avant-gardes.
Ping-pong. La culture sans limite. Oh, yeah. Edith.
La culture sert à tout, même à dévorer ses enfants. Alors que sur Alep, on plu, dru, les bombes russes, sur Paris, ce sont plutôt les bulbes dorés de la nouvelle cathédrale orthodoxe et les œuvres d'art collectionnées par des industriels et des oligarques du pays de Maïakovski. Mais si les chiers d'œuvres, comme on dit avec l'accent moscovite de messieurs Shchoukin et Potanin, submergent aujourd'hui les espaces d'exposition de la Fondation Vuitton et du Centre Pompidou et subjuguent les regardeurs, c'est aussi que Vladimir Poutine l'a bien voulu. Et donc, qu'il a élu la France pour étendre son empire à l'ouest et que nous avons accueilli ces libéralités sans trop tordre le nez ni visiblement nous formaliser du fait que pour que M. Potanin amasse par exemple ses œuvres récemment offertes au Centre Pompidou, il lui a fallu enjamber le cadavre d'autres apparatchiks moins dociles que lui, comme Boris Berezovsky ou Boris Nemtsov, tous deux flingués. Oui, il est un petit peu vertigineux de se dire que la collectia de Potanin s'admire à ce prix, celui de notre silence et du nickel aussi extrait pour le profit du sieur Potanin à Norilsk, une mine creusée notamment par des artistes dissidents qu'on y envoyait au goulag et où est née Nadejda Tolokhinova, l'une des Pussy Riot, envoyée dans un camp pour une chanson d'avant-garde. Trêve de confiserie, si vous appréciez aussi les 24 préludes et fugues de Vsevolod Zaderatsky que nous écoutons à présent, des préludes et des fugues composées lors de sa détention au goulag de la Colima, et bien sachez qu'ils ont été édités par Profil Rundfunk. Anne Baldassari, la collection Shchoukin, présentée actuellement à la Fondation Vuitton sous votre commissariat général, illustre, je crois, à sa manière, l'éthos cannibale du pouvoir russe à l'égard de la culture. Cette collection de peintures a été nationalisée par Lénine lui-même avant que Staline ne la mette à l'index et même en détruise une partie.
Non, Staline ne l'a pas détruite. C'est déjà un point acquis. Mais effectivement, cette collection, elle a vécu, elle a subi les turbulences de l'histoire. On doit aussi rappeler que, et c'est son intérêt, c'est que Sergueï Shchoukin l'avait conçu comme un musée, ouvert au public dès 1908, et l'avait donné en 1907 à la ville de Moscou, voulant créer, avec d'ailleurs d'autres grands industriels moscovites, une capitale artistique ouverte sur l'Europe, ouverte sur la France, collection française, et qui était un défi lancé à la grande capitale tsariste qui était Saint-Pétersbourg.
Leïla Slimani, en épigraphe de ce deuxième roman, Chanson douce, vous avez choisi un écrivain russe. Il s'agit de Dostoïevski pour Crime et châtiment. Comprenez-vous, monsieur, comprenez-vous ce que cela signifie quand on n'a plus où aller? Votre héroïne, Louise, cette nounou, le dit parfois en parlant des enfants, il me dévore vivante. Est-ce que c'est aussi une histoire de cannibalisme?
Oui, d'une certaine façon, c'est une femme qui se fait dévorer par les enfants qu'elle garde, mais c'est aussi une femme qui veut dévorer ceux chez qui elle vit, parce qu'elle n'a pas de famille, elle n'a effectivement pas d'endroit où aller, donc c'est effectivement une histoire de cannibalisme dont on ne sait jamais qui est celui qui mange et celui qui est mangé. Et puis c'est aussi finalement les histoires dans les contes pour enfants. Il y a souvent des histoires de sorcières qui mangent les enfants, et c'est pas anodin. Je crois que cette pulsion là elle est très liée à la petite enfance et aux terreurs enfantines.
Votre nounou est donc une ogresse dévorée, et grâce à votre lecture on va entrer un peu plus dans son âme.
Mathilde Serrel, Martin Kénéen. Ping-pong.
Les squares, les après-midi d'hiver. Le crachin balaie les feuilles mortes. Le gravier glacé colle aux genoux des petits. Sur les bancs, dans les allées discrètes, on croise ceux dont le monde ne veut plus. Il fuit les appartements exigus, les salons tristes, les fauteuils creusés par l'inactivité et l'ennui. Il préfère grelotter en plein air, le dos rond, les bras croisés. À 16h, les journées oisives paraissent interminables. C'est au milieu de l'après-midi que l'on perçoit le temps gâché, que l'on s'inquiète de la soirée à venir. À 7h, on a honte de ne servir à rien. Les squares, les après-midi d'hiver, sont hantés par les vagabonds, les clochards, les chômeurs et les vieux, les malades, les errants, les précaires, ceux qui ne travaillent pas, ceux qui ne produisent rien, ceux qui ne font pas d'argent. Au printemps, bien sûr, les amoureux reviennent, les couples clandestins trouvent un domicile sous les tilleuls, dans les alcôves fleuries, les touristes photographient les statues. L'hiver, c'est autre chose. Autour du toboggan glacé, il y a les nounous et leur armée d'enfants. Enveloppés dans des doudounes qui les empêchent, les bambins courent comme de grosses poupées japonaises, le nez dégoulinant de morve, les doigts violets. Ils soufflent de la fumée blanche et s'en émerveillent. Dans les poussettes, les bébés harnachés contemplent leurs aînés. Peut-être certains en éprouvent-ils de la mélancolie, de l'impatience. Ils ont hâte, sans doute, de pouvoir se réchauffer en grimpant sur le portique en bois. Ils piaffent à l'idée d'échapper à la surveillance des femmes qui les rattrapent d'une main sûre ou brutale, douce ou excédée. Des femmes en boubou dans l'hiver glacial. Il y a les mères aussi, les mères au regard vague. Celles qu'un accouchement récent retient à la lisière du monde et qui, sur ce banc, sent le poids de son ventre encore flasque. Elle porte son corps de douleur et de sécrétion, son corps qui sent le lait aigre et le sang. Cette chair qu'elle traîne et à qui elle n'offre ni soin ni repos. Il y a les mères souriantes, radieuses, les mères si rares que tous les enfants couvrent des yeux. Celles qui n'ont pas dit au revoir ce matin, qui ne les ont pas laissées dans les bras d'une autre, celles qu'un jour de congé exceptionnel a poussé là et qui profitent avec un enthousiasme étrange de cette banale journée d'hiver au parc.
Chanson douce, publiée chez Gallimard, votre deuxième roman, Leïla Slimani, je le rappelais, qui est dans la liste des finalistes pour le prix Renaudot, en lice pour le prix Goncourt. Vous êtes sixième des ventes, c'est un véritable page-turner, comme on dit à l'américaine, hein, c'est-à-dire c'est un livre addictif qu'on ne quitte pas dès lors qu'on l'a ouvert. Il faut le rappeler, l'incipit ne laisse absolument pas planer de suspense. Le bébé est mort, il a suffi de quelques secondes, point. La nounou va commettre le meurtre des deux enfants qu'elle garde. Cette nounou s'appelle Louise. On a aperçu ce que pouvait être pour elle un après-midi d'hiver au square. On parlait justement de Dostoïevski, de ces gens qui n'ont pas d'endroit où aller. Comment est-ce que elle vous est apparue, ce personnage de Louise, dont vous dites aussi dans le roman qu'elle n'a pas une chambre à elle, en référence à Virginia Woolf, je l'imagine. Cette Louise qui a le visage de la foule qui va exploser de solitude, qui dit pardon quand on la bouscule. Il y avait votre première héroïne, Adèle, dans Le Jardin de l'Ogre, qui était venue, je crois, sur une petite musique un peu lancinante. Comment est-ce qu'elle est venue, Louise ?
Louise, effectivement, elle a été peut-être plus difficile à construire qu'Adèle, parce que au départ, voilà, j'étais surtout obnubilée par le fait de construire socialement une nounou et d'essayer d'imaginer ce que pouvait être une femme qui travaillait pour les autres, qui élevait des enfants qui n'étaient pas les siens, qui passait ses journées dans un appartement qui n'est pas à elle, qui voit tout le temps des objets, de la nourriture, des choses auxquelles elle ne peut pas avoir accès, et m'est apparu assez rapidement que sa solitude, elle était beaucoup nourrie de ça. C'est-à-dire du fait que rien n'est à elle et que tout ce dans quoi elle s'investit, finalement, elle va en être dépossédée à un moment ou à un autre. Tous ses enfants auxquels elle a donné de l'affection, un jour, elle a dû les quitter. Tous ses appartements dans lesquels elle s'est installée, un jour, elle a dû partir parce que son travail est fait de cette manière. Et j'ai imaginé que sa fêlure, finalement, était nourrie de ça, c'est-à-dire du fait d'avoir constamment dû quitter des gens et de n'avoir rien construit pour elle.
Il y a la dimension du fait divers qui est à l'origine, vous ne le cachez pas, Leïla Slimani, de cette histoire, mais que vous avez faite vôtre, en particulier en convoquant des souvenirs d'enfance, je crois, avec les nounous qui ont pu s'occuper de vous dans votre enfance. Mais même au-delà de cette question du fait divers, il y a une dimension esthétique et éthique, puisque vous en faites un roman, cette chanson douce, et on ne peut s'empêcher, en tout cas moi, de penser à Jean Genet, qui s'est emparé de l'affaire, en particulier des sœurs Papin, qui étaient ses bonnes, donc pour reprendre les termes de Genet. Et chez Genet, on trouve, j'ai l'impression, et vous allez me dire ce que vous en pensez, comme chez vous, une volonté non pas de renverser l'ordre social, mais de le tordre, c'est-à-dire de détruire la structure hiérarchique en accordant à cette Louise une valeur, en accordant une valeur inconditionnelle à chacun de vos personnages, et à cette Louise en particulier.
Alors c'est tout à fait vrai ce que vous dites du point de vue de l'auteur, c'est-à-dire que moi, effectivement, de mon point de vue, c'est ce que j'essaye de faire, c'est-à-dire que j'essaye de ne privilégier finalement aucun point de vue dans le livre, de confronter tous ces points de vue et de mettre le lecteur dans la position assez inconfortable qui est celle de ne jamais prendre parti, de ne jamais juger, et donc le lecteur ne peut pas dire à la fin du livre, finalement, voilà, il y avait les méchants d'un côté, les gentils de l'autre. Mais je crois que chez Genet, comme chez moi, comme chez Mirbeau, comme chez Chabrol, dans tous ces...
Chabrol.
Chez tous ces gens qui finalement traitent de cette question de la domesticité, moi ce qui me frappe, c'est qu'en traitant de ce rapport, qui est un rapport assez banal, parce que c'est un rapport de la vie quotidienne, finalement on parle du monde, on parle de comment on construit la hiérarchie dans notre monde, on parle d'économie, on parle du rapport à la femme, et donc effectivement on essaye, nous, auteurs, de donner de la valeur à ce personnage de domestique, mais je crois que le personnage lui-même, en tout cas Louise, elle n'est pas dans cette optique-là. Elle ne cherche pas à se donner de valeur, elle cherche à se fondre, elle cherche à faire fusion avec ces gens. Elle, au contraire, elle est persuadée de sa non-valeur, elle est persuadée de ne rien valoir, de n'être rien, et elle veut juste faire partie de cette famille, disparaître en eux, faire partie de cette bourgeoisie. Par exemple, ça n'est pas une femme qui déteste les bourgeois, au contraire, elle mime ce qu'elle imagine être la bourgeoisie, ce qui fait que d'ailleurs, elle n'en fera jamais partie, justement à cause de ça, parce qu'elle en a une vision assez ringarde. Finalement, elle ne se rend pas du tout compte de ce que c'est.
Il y a l'ambiguïté, effectivement, dans la compassion pour le mal chez vos personnages. On parlait d'Adèle, le jardin de l'ogre, donc c'est cette femme mariée qui va avoir un enfant et qui, suite à ça, va littéralement avoir envie d'être dévorée, livrer son corps à une dévoration permanente. Elle est dévorée par l'addiction sexuelle. C'est rare aussi, ces personnages de femmes qui sont dans l'addiction sexuelle. C'est rare, peut-être chez Médée aussi, dans la tragédie, mais voilà, de revenir sur, là, c'est pas un infanticide, parce qu'elle n'est pas leur mère, mais elle est littéralement leur mère dans la vie. Donc on retrouve le schéma de Médée. Est-ce que vous avez envie de vous attaquer comme ça régulièrement, Leïla Slimani, à des figures féminines mauvaises, mais parce que justement, il faut les connaître, il faut les explorer?
Oui, moi j'aime beaucoup l'idée justement d'aller vers des anti-héros féminins et d'explorer la part la plus sombre de la féminité. Moi je crois que, enfin je me souviendrai toujours que mon père me disait, les hommes et les femmes seront égaux le jour où on reconnaîtra aux femmes autant de défauts qu'aux hommes. Et moi je suis persuadée qu'effectivement explorer les défauts, les aspects sombres des personnages féminins, c'est finalement montrer que les femmes, elles ont une même profondeur d'âme, une même profondeur dans le mal, dans la douleur, parfois dans la violence, et ne pas enfermer aussi les femmes dans la douceur, la maternité, les mères courage, les grandes amoureuses. Je trouve que voilà, c'est intéressant d'explorer autre chose dans les personnages féminins.
Anne Baldassari, il y a d'emblée, Mathilde le rappelait, avec ses premières phrases et ce premier chapitre de Chanson douce, quelque chose de terrible, d'intranquille, un malaise qui se diffuse chez le lecteur et qui se transforme en addiction pour le lecteur. Et vous avez pu dire, Leïla Slimani, que vous avez plongé pour écrire Chanson douce au plus profond de vos cauchemars, essayer d'imaginer vos peurs les plus noires. Et on n'écrit pas, dites-vous, pour se protéger, mais pour regarder les choses en face. Et je me tourne vers vous, en face de vous, Anne Baldassari, pour vous demander, vous, commissaire général de cette exposition Les icônes de l'avant-garde, donc qui présente toute cette peinture, en particulier française, du tournant du XXe siècle. Est-ce qu'il y a des tableaux dans cette collection Chtchoukine qui sont jugés beaux, mais qui regardent, selon vous, en face nos angoisses et qui sont peut-être faits de nos terreurs?
Je pense que quasiment toute l'exposition est faite de ce type de toiles qui sont très violentes et qui ont toutes choqué Sergueï Tchoukine. Ce qui m'intéresse chez lui, c'est qu'il a collectionné contre son goût, contre le goût de sa classe, contre le goût de son temps, contre sa pente facile, décorative, d'agrément, de délectation. Justement, il va aller vers l'addiction, vers la peur. Je pensais, en vous écoutant et en vous lisant, justement à cette grande salle des femmes fatales que j'ai introduite par cette citation sur ici. C'est une citation qui a trait à Picasso, à l'œuvre de Picasso, où c'est l'outrage fait à l'éternel féminin. On est dans l'outrage en permanence dans la peinture, parce que justement ce qu'on voit dans ces toiles, c'est la peinture en train de se peindre, et non pas tel ou tel personnage dans une quelconque vérité. C'est cette sorte de repli, d'absence. J'écris un texte dans le catalogue, parfois je me laisse aller à une veine plus littéraire, où justement je demande aux lecteurs, je leur dis, mais que voyez-vous? Que voyez-vous dans ces tableaux? Ce sont des tentacules visqueux, ce sont des objets informes, c'est de la toile rêche. Et quand on se met à voir autre chose que ce qui est censé être représenté, un visage, un masque, une posture, c'est tout à fait autre chose qui apparaît. Et dans votre ouvrage, on est conduit à voir ceci. Je voulais vous interroger.
Anne Baldassare, c'est l'interview de Leïla Slimani. C'est une des possibilités de ping-pong. Hein.
Ah, c'est ce qui m'a été dit. C'est ce qui m'a été dit. Mais c'est trop tôt.
Ah non.
Alors justement, j'ai tout le temps pensé à Joyce Carol Oates, qui est un des auteurs avec lequel je vis, et Joyce, comme nous l'appelons à la maison, est quelqu'un qui parle des voix qui l'habite. Alors elle fait un grand travail d'enquête, mais elle se laisse emporter par des voix qui la hantent. Alors, est-ce que pour vous, ça marche comme ça ?
Oui, ça marche comme ça aussi. Ça marche comme une façon de se plonger dans un très grand isolement, une très grande solitude, et de laisser venir à moi les personnages, de les sentir arriver. Puis, au bout d'un moment, ils ont leur propre logique, ils s'emparent de moi, et je ne suis plus qu'une courroie de transmission, finalement, pour mes personnages. Et c'est même ça qui est la magie et l'exaltation de l'écriture. C'est ça, c'est ce côté presque magique, hein, presque
ça
hypnotique.
Ça vous fait peur ?
Non, ça ne me fait pas peur. Non, le réel me fait plus peur que ça.
Il y a beaucoup de fantômes littéraires qu'on a envie d'agiter au-dessus de cette chanson douce. On a parlé des Bonnes de Genet, fantôme cinématographique, la cérémonie de Chabrol. Vous parlez de Joyce Carol Oates, c'est notamment cette incroyable entrée inaugurale dans Blonde, hein, la mort qui va déposer les médicaments au seuil de la porte de Marilyn. Entrée dans les voix, c'est aussi un travail qu'on trouve chez l'écrivain Pierre Michon. Moi, j'ai pensé à lui, je l'ai convoqué par rapport aux vies minuscules, parce que ces histoires de nounous au parc, ces histoires de types qui louent des studios pas chers après une grande carrière de routier, toutes ces petites vies-là qui finalement, il le disait lui-même, le racontent. Est-ce que c'est aussi une entreprise de vie minuscule autobiographique à la Pierre Michon?
Oui, un petit peu, parce que moi j'aime beaucoup les romans de détails, j'aime les romans d'observation, c'est quelque chose qui m'intéresse beaucoup, c'est peut-être aussi mon tropisme journalistique qui fait ça, le fait que j'ai adoré faire du reportage et que j'ai adoré justement être comme ça à l'affût du petit détail qui en dit beaucoup, qui raconte toute une histoire. Et donc oui, moi je crois que ces vies minuscules, elles comptent et que on a besoin de les raconter. Le travail de l'écrivain, c'est aussi ça, c'est donner une voix à ceux qui n'en ont pas du tout de manière militante, parce que pour moi le roman c'est pas le lieu du militantisme ou des messages, mais voilà, c'est donner une voix à surtout ce paysage citadin. Moi, Paris, c'est une ville qui me fascine, comme toutes les grandes villes, où vous voyez des errants solitaires, où vous voyez tous ces gens dont vous imaginez que peut-être ils ne parlent à personne, que peut-être personne ne saura jamais rien sur eux, et ça me fascine beaucoup.
Et qu'est-ce qu'il y a comme voix qui sont remontées en vous à l'écriture? Martin l'a un petit peu évoqué au Square. Dans cette lecture du Square en hiver, il y avait un petit peu de ces nounous marocaines, de ces mots qu'on leur adressait qui vous gênaient, je crois, parfois dans l'enfance. Il y a aussi une très belle scène où votre nounou Louise va emmener les enfants dîner dehors dans un restaurant assez sordide. Ça sent le ragoût, le tabac froid, la sueur. Et c'est ces moments où les enfants sont mal, font semblant d'être bien pour ne pas inquiéter les adultes, avalent des glaces qui leur donnent mal à la tête. Est-ce qu'il y avait de la Leïla Slimani de l'enfance qui remontait à ce moment-là à la surface?
Oui, c'est sûr, parce qu'en plus, moi, j'ai toujours trouvé que l'enfance n'était pas du tout comme on nous le décrit, un moment de grande douceur, d'innocence, d'insouciance. Moi, j'étais pas du tout une enfant comme ça. Je percevais beaucoup ce qui se passait autour de moi. Je percevais les malaises, je percevais les secrets. Et je trouve que c'est très difficile quand on est enfant, parce qu'on perçoit ça. En même temps, on n'a pas les mots ni les outils pour le dire, pour le raconter. Que quand on essaie de le raconter parfois, ou même très souvent, on n'est pas écouté ou pas bien écouté. Et ce malaise-là, effectivement, finalement, la petite fille et la nounou le partagent, ce malaise. Elles ont toutes les deux un problème de mutisme, une difficulté à parler à ces adultes qui sont les parents. L'une parce que elle est enfant, l'autre parce qu'elle est domestique et qu'elle se met constamment dans une position d'infériorité. Et donc c'est en même temps, c'est presque un moment de complicité entre ces deux femmes. Et moi, il m'est arrivé petite de ressentir le chagrin, de ressentir la tristesse que pouvait ressentir une nounou. Moi, j'ai le souvenir, j'étais un peu plus âgée, j'avais peut-être 12-13 ans, et j'étais chez une amie à moi qui avait une nounou qui avait 18 ans. qui était à peine plus âgée que nous. Et on était en train de regarder la télévision, et cette jeune fille est venue, elle s'est assise sur l'accoudoir du canapé, puis elle a commencé à regarder la télé, on regardait Friends, je crois, et puis elle s'est mise à rire parce qu'elle nous voyait rire, et la mère est passée, elle lui a lancé un regard, et on a tout de suite compris que ça voulait dire « qu'est-ce que tu fais là? Comment est-ce que tu peux oser regarder la télé ?» Et moi, j'ai trouvé ça terrible parce qu'elle était, c'était encore une enfant. C'était une fille qui avait envie de passer un moment de récréation avec nous. Et j'ai compris cette hiérarchie sans pouvoir mettre de mots dessus, mais je l'ai trouvé terriblement cruelle, terriblement dure. Et ça, ça m'a beaucoup marquée pendant toute l'écriture du livre.
Anne Baldassari, Leïla Slimani a des souvenirs, des détails, comme elle dit, de l'enfance qui sont entrés dans sa chair, qui ont pu lui servir pour son sens et son art du détail dans Chanson douce qui, à leur tour, entrent dans notre chair. Si on revient à la collection Shtchoukine, est-ce qu'il y a, puisqu'on dit que le diable est dans les détails, mais Van Gogh dit aussi que de près la peinture ça pue, donc il faut se tenir un peu à distance, mais dans les tableaux qui sont amoncelés sur les 2500 mètres carrés d'exposition, est-ce qu'il y a quelques détails qui vous sont entrés dans le regard et dans la peau?
Je pense que ça excède ma propre expérience. Ces toiles, ce sont des peintures qui nous sont familières. Elles ont leur double dans les musées parisiens, dans les grandes collections que nous connaissons en Europe. Et en fait, on pense tous les connaître déjà parce qu'elles sont partout. Nous avons tous une carte postale, une affiche. C'est vraiment l'imaginaire du siècle. On est dans la légende, une collection de légendes. Et oui, moi, je suis faite de ces détails. Moi, j'ai un autre âge, mais j'ai été une enfant qui était une artiste, qui vivait dans la rêverie et dans la peinture très très tôt. Et je suis faite de ça. La peinture, c'est ma vie. Et ce que je retrouve dans ces toiles et cette émotion qui est très forte dans l'exposition, qui étreint ce qui arrive, qui m'a prise par surprise parfois, parce que bon, c'est un grand chantier, c'est un chantier monumental, mais on travaille en équipe. Et puis tout à coup, les œuvres sont là et elles nous emmènent dans leur propre sphère. Il se passe quelque chose, et c'est effectivement, alors si vous voulez que je vous décrive des peintures, vous qui n'avez pas eu le temps d'y aller, et pour rester dans la salle de ces portraits féminins, eh bien, il y a cette petite danseuse de Degas, des années 1877, je crois, qui est une merveilleuse petite danseuse sur un fond de grandes verrières, de studio parisien, peut-être à l'opéra. On voit la ville en bleu et gris, à l'arrière, qui transparaît. Il y a au premier plan à droite une grande psyché, un grand miroir sur pied, et elle tournoie dans la lumière à blême parisienne, et c'est extraordinaire parce que cette petite danseuse a été considérée comme, je me souviens d'une des citations d'un critique d'art russe qui dit c'est la bête humaine de Zola, elle grimace, c'est un petit singe, et on sent le refus, le déni d'un regard qui est le regard de la haute culture, de l'aristocratie intellectuelle face à ce petit démon danseur qui est un emblème de la nouvelle peinture, inacceptable.
La chanson douce grimace aussi chez Leïla Slimani et dans la voix de Mylan.
Je suis une bombe humaine dans une maternelle, un cutter dans le cœur de ton paternel. J'ai mis ta mère en vente sur internet et je fais tapiner ta sœur, on vient materner. Coupe dans le zen, pompe sur la tempe, au tempère, pédale de merde, j'appelle à la haine, au meurtre, au viol et à la tuerie, au massacre, à la furie, au napalm, que des bâtards de
Mylan, gentiment, je t'immole, chanson extraite du film Shaitan, qui signifie le diable, le démon, en arabe. Et on sent toute la cruauté dans cette chanson douce, cruauté, le mot est dit, est lâché, concernant votre nouveau roman, Leïla Slimani, écriture de la cruauté, comme chez Artaud. Et Derrida a pu dire que ce théâtre de la cruauté d'Artaud, c'était pour lui une écriture de la destruction de l'Occident. Est-ce que, à travers la description que vous faites non seulement de votre personnage, de Louise, cette nounou, mais aussi du couple, Paul et Myriam, qui l'embauchent et qui est toujours pressé de faire autre chose que de s'aimer ou d'aimer leurs enfants de la meilleure façon qu'il faudrait, c'est aussi une entreprise, sinon de destruction, du moins de description de l'Occident dans ce qu'il a de plus vicié.
Je dirais que c'est en tout cas une façon d'abîmer un petit peu la surface, quoi, de la salir, de montrer que toutes les bonnes intentions, que la bonne conscience, que la bonne image qu'on donne de soi, ça n'est rien d'autre qu'un écran de fumée, ça n'est rien d'autre qu'une apparence, et que finalement artistiquement c'est pas intéressant. Ça, ce qui est intéressant, c'est ce qui se cache derrière, et je le dis sans aucun jugement, mais moi ce qui m'intéresse, c'est comment on construit toute une génération de gens qui ont théoriquement de très très bonnes idées, théoriquement des valeurs très positives, qui sont des gens tolérants, ouverts, qui n'aiment ni le racisme, ni la guerre, ni la pauvreté. Et comment ces gens se confrontent à la réalité, une fois que la réalité, elle rentre chez eux, une fois que la misère, elle est dans leur salon, une fois que l'étranger est en bas de leur portée. Moi, c'est ça qui m'intéresse. Et on parlait des vies minuscules, oui, des vies minuscules, bien sûr, mais la vie minuscule du domestique, du migrant, du sans-papier, du clochard en bas de chez vous, elle a finalement une incidence sur toute une culture aussi de notre société, où bon, bah, c'est plein de gens très bien, mais qui ne savent plus ce que c'est que bien faire. Est-ce que c'est donner 2 euros à quelqu'un dans le métro? Est-ce que c'est se donner bonne conscience en donnant à une association? Ou est-ce que bien faire, c'est vraiment interroger ses valeurs, essayer de favoriser une mixité sociale à laquelle en réalité on se refuse? Moi, j'ai pas de réponse, parce que moi-même, je fais partie de ces gens, et je me juge moi-même finalement dans ce livre. Je ne me mets pas du tout en dehors de ça. J'ai pas la réponse, mais disons que mon entreprise littéraire, c'est celle d'abîmer, voilà, de salir cette image parfois très très je trouve très très mensongère, voilà, qu'on essaye de donner d'un Occident très positif et tout. Je pense qu'il essaye de l'être, c'est un horizon, mais c'est pas pour autant acquis.
Tout le monde est l'égoïste de quelqu'un d'autre dans vos romans, Leïla Slimani. Tout le monde est victime, il y a une sorte d'égoïsme en chaîne comme ça.
Oui, ça, je crois que c'est à la fois métaphysique, c'est-à-dire que ça, c'est le propre de l'homme. Il y a un égoïsme en chaîne qui fait qu'on survit, quoi, qu'on arrive à survivre au sein de sa famille, au sein du groupe, au sein de la société. Mais je crois aussi que notre société, effectivement, elle nourrit ça, parce que il y a une espèce d'injonction aussi à être un individu le plus complet possible. On vous dit, vous ne pouvez pas être qu'une mère, vous ne pouvez pas être qu'une sœur, vous ne pouvez pas être qu'une épouse. Il faut que vous soyez aussi accompli en tant que, enfin, dans votre profession, en tant que ci et que ça, et que c'est très difficile d'être toutes ces personnes en même temps, c'est épuisant. 1, 2, 3.
Vous écoutez Ping Pong sur France Culture, l'émission qui, malgré toutes les difficultés, essaye de n'être pas qu'une émission de radio. On continue à explorer les tourments qu'il y a dans le miroir que nous tend Leïla Slimani avec sa chanson douce. Et on plonge avec délice et aussi un peu de terreur. Donc, il le faut dans la collection Tchoukin avec Anne Baldassari.
Ping Pong. La culture sans limite.
Dans vos romans, Leïla Slimani, vous infiltrez les âmes et les chairs des bad girls, des mauvaises filles, de celles qui n'ont pas la sacro-sainte fibre maternelle et des ambitions parfois mesquines, de nouvelles sorcières qui dérapent dans un monde d'accomplissement ultra-individualiste. Faire des dérapages dans le désert, se frapper le torse et les chaînes avec, c'est le genre de rouade qu'on apprécie chez l'artiste anglo-tamoul Mia et son mythique bad girls. Se moquer aussi du financement du PSG par le Qatar, s'emparer de sujets brûlants comme celui des migrants. Voilà ce que fait Mia, qui continue d'exploser pas que les frontières musicales. Écoutons-la avec Go Off. No focus, loss, I concentrate, you tell you got it wrong. Lost, I got this trick, you tell you got it wrong.
People like position, I said we up on the level, like my name is Neymar, and you know I'm the number. There is no competition, I gon' pop and you gon' listen. I'm on 10 like man, even better than them. Yeah, I don't need fuckers like the German cause then. My third eye's open and my fuck
focus ain't joking. Yeah, you get it wrong, cause my focus is so strong. Rum, pama, 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 pama. No focus, lost my concentration, and now you got it wrong. Go off on them. Go off on them. Cause lots of cause it's tricky, tell you got it wrong. Yeah, I'm pressing buttons, dropping pins on positions, cause my words go far and this rain is so foreign. You blow the place I live in, watch, I could keep it going. Go off on them. So check up on the messages, know what the message is. Like alien in villages, we're here for all ages. Fans back home, got my tracks bang long. Yeah, you get it wrong, cause my focus is so strong. No focus, lost that concentration, and now you got it wrong. Go off on them. Go off on them. No focus, lost that concentration, and now you got it wrong. Go off on them. Go off on them. No focus, lost that concentration, and now you got it wrong. Focus, lost, I concentrate, you tell you got it wrong. Please you tell your children I came from London. Stop talking about me long time, telling she was random. When I was in your life, but like I was hella bomb. But I had to go off just to stay strong. Strong. No focus, lost that concentration, and now you got it wrong. Go off on them. Go off on them. No focus, lost that concentration, and now you got it wrong. Go off on them. Go off on them. No focus, lost that concentration, and now you got it wrong.
Mia Tigresse Tamoul, plasticienne, ancienne élève de la St. Martin School à Londres, elle continue d'imposer sa musique totale et sa seule date en France, ce sera ce week-end à Paris, ce samedi, pour le Pitchfork Festival. On vous en parle chez nos partenaires du Figaro, ainsi de la nouveauté cette année, des concerts d'artistes en développement réunis sous l'étiquette Avant-Garde. C'est dans le Figaroscope cette semaine.
Ping Pong, c'est sur France Culture.
Et à présent, nous vous proposons d'entrer dans l'atelier rouge de Matisse pour mieux entrer dans la collection Shchoukine.
Le tableau a été peint à la toute fin de l'année 1911, à un moment où Matisse revenait d'un voyage en Russie chez son principal collectionneur qui était Sergueï Shchoukine, un Russe. Il en est à la fois content et un peu effrayé lui-même, effrayé de la nouveauté du tableau. Et alors, au moment donc de se décider à le montrer, il écrit une lettre à Shchoukine, en lui envoyant en même temps une aquarelle du tableau, en lui disant « Voilà ce que j'ai fait, est-ce que ça vous convient ?» Le tableau s'appelle maintenant l'Atelier Rouge, et de fait, il dit « L'ensemble est rouge de Venise. Cette couleur sert de lien harmonique entre les verres d'une branche de capucine qui trempe dans une bouteille à long col, placée sur la table de gauche. Bouteille verte également, mais différemment. » Vous voyez comme il est très précis dans sa description des couleurs. Alors il continue, c'est d'ailleurs amusant. Le prix du tableau est le même que celui du précédent, c'est-à-dire 10 000 francs. Et alors c'est là que, dans le dernier paragraphe de la lettre, qu'apparaît toute son inquiétude, il dit « Ce tableau surprend tout à fait à première vue. C'est nouveau, évidemment. » Et puis la dernière phrase est à la fois drôle et très émouvante. « Vous ai-je dit que ce tableau représentait mon atelier ?» Point d'interrogation, fin. Alors, bon, l'histoire se finit un peu plus tristement parce qu'en fait, Shchoukine a refusé le tableau parce qu'il le trouvait vide. Qu'il disait « Maintenant, ce qui m'intéresse chez vous, ce sont les tableaux à figures, avec des figures humaines. Et dans un tableau comme l'Atelier Rouge, il n'y a pas de figure. »
Alors, si Sergueï Shchoukine a considéré en son temps L'Atelier Rouge de Matisse un peu trop vide. La Fondation Vuitton à Paris, en ce moment, n'est pas vide du tout, puisqu'elle accueille un certain nombre, et même un nombre certain, des chefs-d'œuvre collectionnés par Sergueï Tchoukine tout au long de sa vie. Et Matisse est là, donc, mais pas seul. Il y a Maurice Denis, Derain, Picasso, Cézanne, Monet, Marquet, j'en passe, et quelques œuvres, et pas des moindres de l'avant-garde russe, Rodchenko, Malevitch, par exemple, entre autres. Mais il y a quand même Matisse, qui est au cœur, je crois, de cette relation de Sergueï Tchoukine à l'art et à la peinture française en particulier. Anne Baldassari, vous êtes la commissaire générale de cette exposition, donc icône de l'art moderne, la collection Tchoukine, à découvrir jusqu'au 20 février 2017 à la Fondation Louis Vuitton. Parlez-nous de cette relation et de ce qu'elle nous dit. Et peut-être, je crois que vous tenez à corriger quelque chose à propos de cette archive de France Culture.
C'est terrible. Oui, en fait, c'est une lettre envoyée par Matisse à Tchoukine début 1912, et non pas en 1911, mais ce n'est pas bien grave. Et le tableau a été commencé par Matisse à son retour, effectivement, de Russie. Il rentre fin novembre, début décembre 1911. Et en fait, c'est intéressant de savoir qu'il envoyait à Tchoukine des petites aquarelles, tout petits objet qui fait une demi-feuille colorée très succinctement, c'est vraiment, et c'est à partir de ce type d'objet que Tchoukine commandait les œuvres. C'est ainsi qu'il a commandé la danse et la musique. Et c'est assez impressionnant de voir l'écart entre ces projets qui sont vraiment des croquis colorés, et les très grandes compositions.
Peinture symphonique.
Voilà, les grands ateliers symphoniques qui vont entrer dans la collection. Donc ça montre quand même une confiance absolue du collectionneur face à l'artiste. L'atelier rouge, effectivement, ne rentrera pas dans la collection Tchoukine, mais il est aujourd'hui dans les collections du Musée d'Art Moderne de New York. Et le tableau dont il parle précédent, c'est l'Atelier Rose, qui se trouve dans l'exposition de Icônes de l'Art Moderne à la Fondation Louis Vuitton, qui est un tableau de 1911, qui est absolument splendide, et il constitue une paire, c'est un miroir de ce premier grand atelier, et il pousse un peu plus loin encore la logique à la fois de la monochromie et d'un grand aplat de couleurs dans lequel viennent s'inscrire comme des papiers découpés, mais pas encore, des éléments colorés, des objets qui sont collés à plat, avec des perspectives toutes dissonantes sur ce grand fond uni. Le rôle de Matisse est très important pour Tchoukine, c'est lui qui va être son véritable mentor. Il y a quelques grands marchands, Paul Durand-Ruel en 1898, qui va lui apprendre et l'ouvrir à l'univers impressionniste, qui va l'introduire auprès de Monet. Ce sera un coup de foudre pour Tchoukine. Il va rencontrer Monet, il va réunir une collection très importante, dont 8 œuvres sont présentées dans l'exposition, mais Ambroise Vollard aussi. Mais c'est surtout Matisse qui va éduquer Tchoukine, qui va faire de lui un grand mécène contemporain, qui va l'ouvrir à la question éthique. Qu'est-ce qu'un collectionneur ? Un collectionneur, il doit donner la main à l'artiste, il doit suivre l'artiste, il doit respecter ses choix. Et le moment le plus tendu, on a plusieurs moments charnières dans leur relation. Le premier, c'est cette grande peinture rouge qui se trouve aussi dans l'exposition, la Desserte Harmonie Rouge, la Chambre Rouge, comme l'appelait Tchoukine, et qui en fait était un grand tableau bleu, acheté pour bleu, commandité pour bleu, et que Matisse va repeindre en rouge, et Tchoukine va devoir accepter cet état de fait. Il va devoir accepter que le tableau ne vienne pas à Moscou directement, mais soit présenté au Salon d'automne, puis à Berlin. Il va devoir attendre presque 8 mois, et ce sera chaque fois pire. Et plus Matisse prend pouvoir sur Tchoukine, et plus Tchoukine apprend à collectionner et à accepter que, ben oui, un collectionneur doit être militant, un collectionneur doit servir l'art et non pas se prévaloir d'œuvres même atypiques, même audacieuses. Elles ne sont pas là pour au bénéfice de son image sociale et pour réjouir son cercle de proches, mais elles sont là pour changer l'art, changer la peinture.
Justement, c'est très intéressant cette réflexion sur le rôle du collectionneur qui peut effectivement aussi se repenser à l'ère contemporaine. Hein. Peut-être que le chemin de Shulkin, c'est aussi un chemin qu'on peut interroger aujourd'hui. Vous avez insisté, par exemple, lorsqu'on avant de pénétrer dans le cabinet Picasso, on a cette phrase que Shulkin dit que il se le dira toujours que même s'il a tort, au départ, il pense que Picasso a tort, même s'il ne comprend pas, c'est forcément lui le collectionneur qui a tort et quelque part Picasso le voyant qui va lui guider la voie. Donc quel collectionneur est Shulkin au-delà de ce collectionneur qui pense contre la France, puisque la France à l'époque méprise totalement ses artistes, contre l'intelligentsia artistique dans son propre pays, et aussi un petit peu comment est-ce qu'il pense lui ces accrochages. C'est ça que je voudrais que vous appreniez. Comment les accrochages de Shulkin sont organisés? Parce que cette exposition, c'est aussi la confrontation, un travail de scénographie, à un collectionneur qui avait lui-même sa propre science d'accrochage.
Oui, alors Shulkin, en fait, va travailler contre lui-même. On en parlait tout à l'heure. Il va se déplacer sur cet espace. C'est Gertrude Stein qui disait, c'est la laideur. Oui, l'art moderne, l'art contemporain à l'époque, et sans doute aujourd'hui, c'est cet espace qu'on nomme la laideur, parce que justement, on n'a pas de mots pour en parler. Et cette terra incognita terrorisante, oui, c'est l'effroi qui va le guider, le choc émotionnel et l'effroi. C'est quand même très intéressant. Qui aujourd'hui collectionne sur la base d'une sorte d'attraction pour l'abîme, le vortex obscur de cette laideur, de cette œuvre en train de se faire, de cette peinture en train de nous attirer vers elle, malgré nous? Shulkin dit, Picasso a raison contre moi et contre lui. Et donc,
Leïla Slimani a trouvé beaucoup de lecteurs jusqu'à présent qui sont tentés par l'aventure, d'un point de vue littéraire en tout cas.
On vous laisse continuer.
Tout à fait. Et donc,
Valdarassi, allez-y.
Leïla, dites-moi quelque chose sur cette exposition.
Non, mais on va y revenir tout à l'heure. Mais donc il pense contre lui-même.
Il pense contre lui-même.
Et comment ça se traduit?
Alors dans son accrochage.
Dans l'accrochage. Oui. Pour en parler, chez lui, c'est très important.
Alors la muséographie de l'exposition pourrait être trompeuse. En fait, on a travaillé avec ce dont on dispose, c'est peu de choses. On a une quinzaine de photographies qui ont été extraites de fonds d'archives en Russie et qui sont vraiment le résultat de ce travail d'accrochage. En fait, il a un tout petit palais, notre Sergueï Shulkin. La totalité de ces galeries représente 250 mètres carrés.
Palais Trubetskoy.
Voilà, c'est le palais Trubetskoy, grand aristocrate russe, racheté par ces industriels qui sont à l'époque en train de changer la règle à Moscou. Et c'est le monde du commerce, c'est le monde de l'entreprise. On reviendra peut-être sur le fait que c'était une famille de vieux croyants, donc une orthodoxie très, très remontant à avant le schisme, un rapport à l'image et à l'icône. L'icône est une image révélée qui n'est pas faite de main d'homme, qui est révélée. Donc on est quand même dans un rapport qui, au sacré de l'image et au sacré de la peinture,
est très spécifique. Ce que vous appelez l'iconostase?
L'iconostase, oui, c'est une installation d'icônes dans une église russe orthodoxe. Et en fait, Shulkin va regarder et construire des grands murs de peinture, non seulement avec les Gauguin, mais en fait avec toute sa collection. Et l'iconostase dans l'espace liturgique orthodoxe, c'est ce mur qui sépare l'espace de la célébration, du culte, des mystères, de celui des fidèles, des croyants, de ceux qui observent et qui contemplent. Et en fait, d'une certaine manière, cet espace est celui de l'artiste qui, lui, participe au mystère, crée un nouvel espace pour ce mystère, un espace sacré, peut-être pour Shulkin, et de celui de l'amateur, du visiteur de musée, qui se tient en deçà et qui regarde. Et donc, ce qu'on voit sur ces photographies que j'ai fait installer à l'échelle du bâtiment, donc elles font 5 mètres de haut, dans certains cas 20 mètres de long, sont très impressionnantes. J'ai respecté le noir et blanc de ces images. C'est que elles
sont les photos donc du palais, voilà, et des installations et des accrochages tels quels.
Voilà, tels qu'ils ont été photographiés à partir de 1910. En fait, c'est un résultat, puisque à l'origine, sur les premières images dont nous disposons, c'est un tableau correctement accroché au centre d'un panneau, de manière très décorative, très conventionnelle. Et c'est le poids de la collection qui va créer cet entassement, cette espèce d'immense all-over d'œuvres qui constitue une sorte de tapis, d'images dans le tapis. D'ailleurs, il y a de nombreuses images dans ce tapis, mais cette construction, elle est la marque physique de cet envahissement de la vie de Tchoukine par la peinture. Ce n'est pas un choix muséographique de sa part. Il n'a pas d'autre choix que de se laisser submerger par la peinture. Et là, cette peinture submerge les murs du palais Trubetskoy et de la fondation Vuitton en ce moment.
Les Laslimani, peut-être les artistes qui sont collectionnés par Tchoukine, ont-ils eux-mêmes été submergés à chaque œuvre par un langage, par un discours qu'ils projetaient sur la toile? Et après coup, on a essayé de les classifier et de décrire leur style en les faisant entrer dans des catégories. Il y a les impressionnistes, il y a les fauves, il y a pour les toiles russes des suprématistes, des constructivistes par exemple. Si on devait parler de style avec vous, est-ce que, au-delà du fait que vous êtes submergé et immergé dans votre personnage de Louise dans Chanson douce et dans tous les autres personnages qui constituent ce roman, après coup, est-ce que il vous est possible de décrire le style que vous avez adopté dans ce nouveau roman, peut-être par comparaison avec Le Jardin de l'Ogre, le précédent?
Ce serait très difficile pour moi, surtout pour moi d'ailleurs, de définir mon style. C'est drôle parce que quelqu'un aujourd'hui me parlait d'une citation de Paul Morand qui disait que chaque auteur c'est une sorte de longueur d'onde et que c'est comme ça qu'on définit le style et que c'est d'une certaine façon indéfinissable, c'est indicible. On ne peut pas dire quel est notre style. On peut simplement dire ce vers quoi on va et ce qu'on recherche dans notre travail d'écriture. Moi, je sais que je recherche la clarté, la plus grande limpidité possible. Moi, j'aime ça dans l'écriture. J'aime les choses nettes, claires. C'est pas pour rien que mon auteur préféré, c'est Tchekhov, que j'aime beaucoup Camus, parce que j'aime la simplicité dans l'écriture, le détail qui
vous
dit biffez, beaucoup de choses.
Vous retranchez voilà. Beaucoup comme Flaubert aussi.
Je retranche énormément, j'enlève beaucoup.
Faites la chasse au voilà, mot comme Zweig.
Je secoue pour que les adjectifs et les adverbes tombent, voilà, et qu'il reste que. On m'a fait aussi cette remarque que j'ai trouvée assez intelligente sur la scène de la carcasse en me disant est-ce que c'est pas une métaphore de votre écriture? Bah, c'est peut-être un peu vrai. C'est-à-dire que j'essaye d'arriver au squelette et d'enlever toute la chair qui n'est pas nécessaire. Voilà.
La scène de la carcasse, c'est cette nounou, hein. On lui dit qu'il faut pas manger les aliments périmés. Elle va aller chercher cette carcasse de poulet. On est dans la charogne baudelairienne aussi, hein, au fond du sac poubelle.
Absolument.
Elle va la faire manger cette chair pourrie par les enfants, la nettoyer, la poser comme un trophée sur la table de sa patronne. Leïla Slimani, vous avez eu la chance d'aller à l'exposition de Tchoukine, justement, puisqu'on est dans les portraits de femmes. Je voudrais qu'on pénètre à nouveau dans cette salle des femmes. On était dans l'accrochage. Là, c'est très intéressant. C'est presque une fresque, une continuité de portraits de femmes. Et pourtant, il y a du Degas, on l'a dit. On est aussi chez Picasso. On est chez Matisse. On est dans la peinture en train de s'arracher d'elle-même, comme le dit Picasso, dans des inventions plastiques. Qu'est-ce qui vous a touché, vous, par exemple, dans cette salle? Peut-être cette buveuse d'absinthe.
Oui, moi, c'est la buveuse d'absinthe qui m'a beaucoup marquée par sa
c'est
posture.
Picasso.
Voilà, c'est Picasso, par sa posture. Elle a sa main sur son épaule, elle est comme tordue. Et je trouve que c'est vraiment, alors moi, je l'ai vue avec un regard de romancière, mais je l'ai vue vraiment comme un personnage romanesque. Je l'ai vue comme un personnage de Zola, comme, un personnage de Mauriac, ses premiers personnages de femmes très seules, de femmes abîmées, de femmes dans la ville, des femmes citadines comme ça, assises en train de boire. Et ça m'a beaucoup touché, beaucoup marqué. J'ai beaucoup aimé ce tableau.
C'est une femme du peuple.
Oui, voilà.
Il faut le rappeler. Je l'évoquais au début de l'émission dans mon édito. Les collectionneurs, comme Sergueï Tchoukine, sont des grands bourgeois, en l'occurrence des industriels, au moment où l'industrialisation de la Russie va bat son plein. Et puis j'évoquais aussi Monsieur Potanine, qui a donc offert un certain nombre de chefs-d'œuvre de l'avant-garde, mais des années 1970 et 1980, en particulier au Centre Pompidou récemment. Monsieur Potanine, qui a fait fortune en particulier autour de l'exploitation et de la revente du nickel et du palladium. Et j'aimerais qu'on dise un mot avec vous, Anne Baldassari, de cet homme d'affaires qui était ce collectionneur, Serge Tchoukine. Et on raconte une anecdote sur les bonnes affaires aussi qu'il cherchait à faire. Et une fois, il y a un tableau hollandais qui lui est passé entre les mains. Et puis, il l'avait acheté pas très cher. Il a pensé faire une bonne affaire en le revendant peu de temps après avec une plus-value. Et on aurait découvert un Vermeer après coup et il s'en serait mordu les doigts.
Oui, je pense que ce n'est pas lui, mais l'un de ses frères, parce que c'est on est dans une fratrie de grands collectionneurs. Et à l'époque, non seulement certaines œuvres se révélaient être des œuvres originales alors qu'elles n'avaient pas été attribuées, mais dans d'autres cas, beaucoup plus nombreux, il y avait des faux. Les faux traversaient l'Europe et il y avait toujours cette inquiétude, notamment vue de Russie, le Septentrion, ce pays qui était quand même dans la brume à l'époque, d'être grugé. Très souvent, la critique était violente à l'égard de la collection. Les gens disaient « Tchoukine est devenu fou, il est entre les mains des marchands parisiens, ce sont des escrocs et il achète juste n'importe quoi ». Et c'était incompréhensible de le voir arriver avec ses trophées, ses grandes peintures monochromes, incompréhensibles, monstrueuses, je cite. C'était vraiment terrible ce qui se passait et on le jugeait fou. Donc c'est intéressant de voir que ce grand homme d'affaires, très très brillant, il avait développé l'affaire familiale de manière très importante, qui était enclin et à chercher des bonnes affaires. Malevitch a une phrase très dure, il parle de la collection de Tchoukine et il dit « Les collections des grands collectionneurs, Morozov et Tchoukine, se sont construites sur la misère des peintres. Cette misère, elle était palpable, elle était partout. On sait comment est mort Gauguin, syphilitique, gravement malade, n'ayant plus un sou. Cézanne a survécu parce qu'il était dans une position de petit bourgeois de province et lui rêvait d'être un classique et d'aller au salon, mais il était dans une grande... il vivait d'une manière très ascétique. Picasso mourait de faim. Il mourait de faim, littéralement.
Vous ne citez que des artistes qu'on trouve hein, dans la collection Tchoukine. Oui, voilà. Il y aurait des moindres.
Gauguin, donc mort à Tahiti, dans des conditions très dures. Et Matisse vivait grâce au fait que Madame Matisse faisait des chapeaux. Elle était modiste. Et lui-même travaillait pour un grand décorateur, mais au kilomètre. Qui s'appelait Jambon, et il faisait des travaux décoratifs pour le Grand Palais, là où d'autres venaient exposer. Il faut voir dans quelles conditions ces artistes de l'avant-garde vivaient. Et le marché de l'art n'existait pas. Il a fallu quelques collectionneurs extrêmement audacieux, et notamment les Stein, ou Gustave Fayet, ou Marcel Samba, pour commencer à soutenir ces artistes. Quelques marchands aussi, Durand Ruel, Vollard. Quand Tchoukine arrive, ce marché commence à exister et il emboîte le pas à ses pionniers. Mais cette image que vous avez choisie, cette peinture de Picasso, la buveuse d'absinthe, elle date de 1900, elle est très emblématique, elle me fait penser, moi, à la carcasse de votre ouvrage. Et
oui, c'est juste... Il y a notamment ses mains de
elle sorcière. Est décharnée,
oui. Elle a des mains disproportionnées, très allongées, très inquiétantes.
Tout à fait, elle est à l'orée de tout un travail de Picasso pour la période bleue, où il passait ses journées à l'hôpital Saint-Lazare, où les prostituées et les syphilitiques étaient réunies, voire elles n'étaient pas traitées, il n'y avait pas de traitement, elles étaient parquées. Et il peignait ces femmes et qui ont joué un rôle très fort dans cette période cette période dite bleue.
Cet hôpital Saint-Lazare qui est dans Nana de Zola, qui est dans Journal d'une femme de chambre d'Octave Mirbeau, donc c'est drôle de voir aussi.
C'est la même histoire.
Voilà, c'est la même histoire finalement.
Si un tableau provoque un choc psychologique chez vous, achetez-le, dit de sa voix de bègue Tchoukine dans l'exposition. Le cycle d'aphorismes, c'est Chostakovitch sur la piste de l'avant-garde. Nous sommes en Russie en 1927. À ce moment-là, le gouvernement va lui commander la symphonie numéro 2 pour célébrer l'anniversaire de la Révolution russe. Et puis ça va se gâter très sérieusement plus tard hein, pour Chostakovitch qui sera l'ennemi du peuple. On parlera de formalisme petit bourgeois, d'hermétisme. Il va échapper de justesse aux purges. Voilà pour les mots qui sont appliqués au travail de Chostakovitch, qui peuvent aussi se retrouver sur les œuvres de l'avant-garde française, des œuvres aussi de l'avant-garde russe, parce que c'est une exposition de la confrontation. À la fois, on va découvrir la peinture de l'art moderne français en train de se faire avec les premiers autoportraits qui se font face, Anne Baldassari, mais on a aussi une confrontation que vous avez voulu de la collection Tchoukine avec l'avant-garde de l'art russe. Pourquoi ?
Ça semble essentiel parce que cette exposition aurait pu être une magnifique exposition de l'histoire de l'art moderne, mais avec le caractère académique, où les choses reculant dans le temps, on est au 21e siècle, on a l'air de parler de quelque chose de très très ancien. Et grâce à ces avant-gardes qui ont été perdues entre-temps, conduites à l'exil, au suicide, au camp, on est face à un art qui est l'affiliation directe de l'œuvre de Cézanne, de Matisse, de Picasso, de Gauguin, et qui a mené cette révolution picturale jusqu'à beaucoup plus loin. Et vous parliez tout à l'heure de tous ces ismes, cubisme, fauvisme, suprématisme, etc. Il faut savoir que très souvent, ces noms étaient donnés par la critique et étaient des noms négatifs. C'est la bourgeoisie intellectuelle qui... c'était une manière de trucider
le
un
fauvisme,
artiste.
C'est plutôt
voilà, mais ce sont
une insulte.
Ce sont des insultes à l'origine. Quand Matisse, et c'est Matisse qui invente le mot cubisme, en fait, veut se démarquer à ce moment-là de ce que Braque et de Rhin, qui sont des renégats du fauvisme, sont en train de faire aux côtés de Picasso. Donc on est toujours dans quelque chose qui se défausse, qui se déplace et qui est souvent en isme. Mais ces jeunes peintres, en fait, ils ont été les enfants de Tchoukine aussi. Tchoukine, quand il ouvre...
Kazimir Balevitch, entre autres.
Alors voilà, il ouvre sa collection en 1908 et là, les jeunes peintres arrivent. Et d'ailleurs, à l'Institut d'art de Moscou, on leur dit, n'y allez pas, parce que vous allez être corrompus. Cette peinture, elle est toxique, elle est choquante, elle va les dénaturer. Et c'est exactement ce qui va se produire. Ils vont découvrir une peinture qui n'est même pas vue à Paris. Il n'y a pas de lieu pour voir la peinture de Matisse et Picasso à Paris. Et donc, ils vont immédiatement l'assimiler, discuter avec elle, et dans l'exposition, on voit ce débat en acte dans la peinture qui nous amène vers l'arrêt vert de Rosanova, le carré noir de Malevitch.
Ping-pong. Fondu au noir. C'est déjà fini.
C'est fini. On fait une deuxième heure.
Là. Merci beaucoup. On l'aura
sur les
compris.
Internets.
Leïla Slimani, Anne Baldassari, il ne faut donc pas aller à la Fondation Vuitton.
Il ne faut pas lire
de l'art moderne. Il ne faut pas lire Chanson douce, publiée chez Gallimard, parce que c'est toxique, parce que ça vous oblige à regarder le monde en face et même à vous regarder vous-même en face. Donc attendez-vous à avoir des frissons délicieux et terrifiants à la fois. Donc à la lecture de Chanson douce de Leïla Slimani et à la découverte de la collection Tchoukine jusqu'au 20 février 2017 à la Fondation Louis Vuitton.
Le ping-pong est un petit abîme radiophonique qui se regarde en équipe. Et quelle équipe ? À la rédaction Aïssatou Ndoye, Jeanne Aléo, Seam Boutata et Lila Bozès. À la réalisation Thomas Beau, à la prise de son ce soir Élise Leu et Théo Gomard.
Demain dans Ping-pong, eh bien on va encore au Septentrion et on va même dans la dernière dictature communiste du monde en Corée du Nord avec messieurs Éric Faye et Ducoudray. Bang !
Foin de dictature, place à la musica de Fanny Ardant, ce sera dans quelques instants pour Avoigny sur France Culture, bien sûr.